c'est un ancien homme politique d'extrême droite, donc il est mort bourré en rentrant dans un platane à 140 km/h, un taux d'alcool de 1,8 g. Autant vous dire qu'il était rond comme une baleine.
On voit du feu en triangle entre Del Piero et Maori. C'est évident, on a de très grands techniciens devant. Ça peut faire de très belles choses.
Allez, Servette, allez, Servette, allez.
C'est quand même impressionnant que tu dis ça, puisque derrière, t'as quand même des joueurs comme Pavel Nedved, qui n'est pas la dernière planche, mais. Et t'as la première atomique, qui est quoi, Minko, qui m'a surpris, m'a impressionné aux Jeux Olympiques.
Bonsoir à toutes et à tous. Il y a un beau plateau, c'est vraiment le luxe ce soir sur Génération Soccer. Alors c'est l'Europe de Soccer, 21h15, on a un peu de retard, on s'en excuse. L'Europe de Soccer, il n'y a pas eu de championnat, il n'y aura pas de championnat ce week-end. Il y aura bien sûr les matchs internationaux. On va revenir sur l'actu européenne du week-end, sur l'actu de l'Angleterre, espagnole, portugaise, italienne, allemande, avec du beau monde. Il y a du monde, c'est un peu le bordel. Là, il y a beaucoup de monde ce soir. Et juste avant de commencer, il y a un match qui joue en ce moment, c'est Malte-France. Je pense que vous devez être tous devant votre poste à regarder ce magnifique match. Pour l'instant, il y a 0-0 après 23 minutes de jeu, donc 0-0 à Malte dans les 4. Comment ?
La Suisse, elle a gagné contre le Sénégal, c'est aussi moins important.
Eh ben voilà, donc c'est la Suisse qui a gagné à l'Estonie l'actu de la journée. Je pense que vous n'écouterez plus l'émission de la même façon maintenant. Merci bon. Valentin.
Pour ceux que ça intéresse, oui. Le match France Espoir est sur Soccer's Live, donc si vous voulez écouter l'émission et puis que vous n'avez pas de télé, allez les voir.
Ah bah très beau, je pense que c'est à tester. Hein. Pierrot qui est en fond et un match du Soccer's Live, oui. À tester, dites-en des nouvelles. Alors ce soir, je vous ai dit qu'il y avait du beau monde, il y a du beau monde, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de personnes. Il y a Heli qui nous vient tout droit du Maroc. Alors, ou pas.
Attends, faut traverser la Méditerranée.
Ouais, faut dire que le chemin est assez loin.
Allez, vous entendez?
Salut Ali.
Salut.
On t'entend, on va dire, par intermittence. Voilà. Oui. Il y a aussi Dizzy. Salut Dizzy.
Bonsoir, ça me fait plaisir de vous retrouver après si longtemps. Donc,
et Ligue Tessier.
Bonsoir à tous les auditeurs et surtout à tous les animateurs que j'ai pas vu depuis longtemps.
Salut Dizzy. Il s'est pris des gros congés celui-là. Hein. Il y a aussi Raled.
Ouais, salut à tous.
Il est fier, vous l'entendez dans cette voix, mais oui, il est sur son iPhone. Il y a Pierrot aussi.
Bonsoir à tous.
Et le plus français des étrangers pour finir, Valentin.
Attends, non, le français, pas oublier le mot français à Valentin, non, c'est pas possible.
Allez, c'est tout pour se faire réagir. Voilà.
Salut à tous.
Eh ben, c'est fait. Donc voilà, ça fait plaisir à tous de vous voir et aujourd'hui c'est aussi le grand retour de Dan. Il est pas là, il a pas son micro pour nous parler, c'est dommage. Salut Dan.
Il est 21h20.
Voilà, il est 21h20, c'est l'année 5500e. Voilà, bonne fête au cas où il y a une fête aujourd'hui Dan. On va tout de suite commencer par l'émission. On fait un tour de l'actu européenne, on va commencer par l'Angleterre. Donc une actu de là-bas, je vais vous dire, donc bien sûr l'actu de la semaine. Van der Sar a rejoué avec l'équipe réserve. L'équipe de réserve a notamment gagné 1-0 contre Everton. C'est bon à savoir, donc Van der Sar bientôt de retour sur les terrains de première ligne. Avram Grant, spécial dédicace à Dan, qui revient à Portsmouth. Il a été nommé manager du club donc de Pompey. Alors, il s'est déclaré très content de revenir en Angleterre après 3 ans sabbatiques en Israël. Alors, après, il y a... Comment ?
Un pingouin à Pompey.
Voilà. Voilà. Donc, Juste, Pogba, c'est une affaire que vous avez dû suivre, vous en avez entendu parler avec donc l'affaire Kakuta et la suspension de Chelsea. Et ben, il y a Le Havre qui avait fait appel, par rapport à l'achat de Manchester du vrai. Et ben, finalement, Manchester a gagné le combat avec Le Havre. Et l'instance internationale, donc la FIFA, a jugé qu'il n'y avait rien d'illégal dans ce transfert. L'endettement, d'ailleurs, on parle de Manchester, l'endettement de Manchester qui inquiète beaucoup parce que l'ancien président de Manchester, il a déclaré dans son livre que ça l'inquiétait beaucoup que ce club soit autant endetté et que les Glazers ne contrôlaient rien. Donc voilà, un petit coup de gueule de l'ancien président par rapport au nouveau propriétaire mancunien. Qui marche? Oui.
C'est pas ce président-là qui a gagné une Ligue des Champions. Rappelons-le.
Oui. C'est vrai. Alors, il y a encore un arabe en première ligue, un saoudien qui serait pressenti pour racheter une partie du capital de Liverpool. Voilà. Donc, à suivre, hein. À suivre, à suivre. Et la dernière info de la semaine en Angleterre, bah, c'est bien sûr notre Stéphane Guivarch, national, pardon. Pardon, excuse-moi. On se relâche un peu trop là. Donc le Stéphane Guivarch national, bah, qui a été élu pire attaquant de Premier League par le Daily Mail. Donc je vous cite Le Quotidien. Plusieurs buteurs fantastiques ont offert leur grâce au terrain de Newcastle. Milburn, McDonald, Shearer et Guivarch. Ce qui est remarquable dans cette histoire, c'est que les Geordies, c'est les habitants de Newcastle, ils pensaient avoir acheté un vainqueur du mondial, ce qui est exact, mais ils auraient sans doute mieux fait de relever le fait qu'ils n'avaient pas marqué un seul but dans cette campagne de 1998-18. Donc c'est ça que... Je cite le journal, le Daily Mail. Et il y a eu un beau gratin, il y a eu un bon, il y a eu un bon, une bonne sélection pour ce classement, parce que un ancien Marseillais, Steve Marley, figure à la 5e place du classement.
C'est dommage que Strahler ne joue pas en première ligue.
Comment?
C'est dommage que Strahler ne joue pas en première ligue, il pourrait faire partie de ce classement.
Voilà. Voilà. Donc merci. Stéphane Guivarch. Oui, voilà. Donc voilà, Stéphane Guivarch, on le salue d'ailleurs. On va tout de suite passer à l'Italie. Donc voilà pour l'actu anglaise. Quelque chose à rajouter sur ce qui, s'il y a quelque chose que j'ai omis de vous dire,
non.
Qui vous a marqué cette semaine par rapport à l'Angleterre?
Non.
Non. D'accord. D'accord. Rien, rien, rien du tout. Eh ben d'accord. On va pouvoir passer tout de suite à l'Italie. L'Italie avec Valentin. Donc Valentin, quoi de neuf sur la planète italienne cette semaine?
Je vais d'abord commencer par un petit sondage. Imaginez que vous vous faites piquer par une guêpe. Qu'est-ce que vous faites?
Rien.
Sauf prendre contre toi jusqu'à ce que ça parte.
Voilà, donc personne met de la Corsizone ou n'importe quelle crème.
Ah, tu parles de l'affaire de Cannavaro?
Non.
Non.
Non,
bah non, parce que
voilà, le joueur le plus drogué de la vie. Le joueur le plus
Khaled
drogué.
Et la perspicacité Khaled ne font qu'un.
T'as vu?
Vas-y, non, Valentin, continue.
Non, bah donc justement, donc on parlait de Cannavaro là, qui il y a de ça un mois à peu près, un mois et demi, en déplacement à Rome pour jouer contre la Roma. Se fait piquer malheureusement par une très méchante bête, une petite guêpe rouge, bleu, jaune et noire qui n'aimait sûrement pas beaucoup Cannavaro. Et cette guêpe a failli tuer, même lui amener des allergies fortement graves à ce Cannavaro. Quand un ballon d'or, c'est pas une guêpe qui va quand même pouvoir avoir raison de sa carrière. Donc, les médecins de la Juventus se sont décidés à lui appliquer une jolie crème à base de cortisone. Rappelez-moi que cette jolie crème à base de cortisone comprenait donc de la cortisone interdite par les contrôles antidopage. Et donc, forcément, Cannavaro se fait choper avec de la cortisone dans,
dans le sang ou dans la pisse, je sais pas ce que c'était son contrôle, je pense que c'était plutôt la pisse. Et donc, il se fait choper, et malheureusement, la IU, qui avait voulu prévenir le CONI, le comité olympique italien, avait oublié de d'envoyer un document, ou peut-être ne l'avait tout simplement pas. Et donc, il se trouve que Cannavaro est positif à la cortisone, même si bon, c'est là on connaît la réputation de Cannavaro. Remember un certain en moins un certain mardi de mai 1999 quand dans une petite chambre d'hôtel à Bascou, le monsieur Cannavaro s'injecte je ne sais quelle connerie dans le sang. Je sais pas si c'est de la créatine, je sais plus. La créatine, c'est plutôt Juventus 97, ça. Avec Zidane, oui, entre autres.
97 pour les Français non bilingues.
Soyons normal, s'il vous plaît. Soyons normaux.
Oui, soyons normal. Exactement. Merci.
Et donc, oui, Cannavaro, qui, bon, il va évidemment rien avoir, pas de suspension, rien du tout. Hein. Mais c'est pas la première fois qu'il se fait choper dans un truc comme ça. C'est toujours aussi con une fois de plus. C'est limite pas surprenant. Mais bon, ça reste Cannavaro, ça reste le capitaine de la nationale. Et donc, il n'y a pas grand chose finalement à dire. Si ce n'est que Cannavaro a été positif. Mais il va rien avoir. Parce qu'en Italie, quand il s'agit de grands joueurs ou de joueurs tout simplement, on peut d'abord donner une petite suspension, mais évidemment tous les recours vont permettre à Cannavaro de rejouer. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci à se faire pour la Juve. Et Cannavaro sera donc sur le terrain dès demain avec l'Italie contre l'Irlande. Maintenant, ça reste une petite polémique en Serie A, mais bon, il n'y a finalement pas grand chose de plus à en dire. Maintenant, de quoi on peut parler encore en Serie A? C'est assez calme en ce moment ici en Italie, c'est assez calme là-bas.
Et oui. Et par rapport à la candidature de l'Italie pour l'Euro 2016. Il n'y a pas eu d'infos cette semaine?
Non, ils ne sont pas. Ah, si, ils ont peut-être parlé des stades, je ne sais plus trop, mais en tout cas, ils ont présenté un très joli logo, qui on verra si cela permet de battre la France.
Ah.
Mais, ouais, c'est clair que les logos...
Logo que vous pouvez d'ailleurs voir sur le...
Franchement, il n'y a pas grand-chose qui est sorti cette semaine. Et il n'y a rien à tirer encore cette semaine. Maintenant, vraiment qui concerne sur la Serie A, on peut pas parler de grand chose. C'est revenir un peu sur la dernière journée de championnat qui a vu la Juventus perdre, mais 100 fois logiquement du côté de Palerme, où la Juventus a été tout simplement amorphe et qui n'a rien démontré, qui a fait peut-être une barre, mais qui aurait dû plus en prendre 4 au lieu de 2. Finalement, c'est en toute logique que Palermo s'était imposé. Sinon, encore en Italie, on peut encore revenir sur le licenciement de Roberto Donadoni, l'ancien sélectionneur de l'Italie qui était entraîneur de Napoli depuis maintenant février ou mars, si je me souviens bien, et qui après les très résultats très moyens du Napoli n'a pas convaincu le président, l'administrateur général. Et la Renzi, qui a tout simplement. Pasquale Marino, qui était le. Non, pardon, Pasquale, je ne sais plus son prénom maintenant. Qui a viré déjà le directeur sportif Marino. Et donc, c'est maintenant Donadoni qui passe à la trappe. Donadoni qui sera remplacé par Walter Mazzarri, qui était l'ancien entraîneur de la Samp d'ailleurs l'année passée, et qui va être tenté de redonner un petit coup d'impulsion à cette Naples et qu'on est parmi les grands, grands favoris, enfin les plus importants outsiders de cette Serie A et qui est finalement assez loin en classement. Même si ces derniers jours, on a parlé de Luca Toni du côté du Napoli, et que lui serait franchement heureux, serait franchement très content de pouvoir signer là-bas. Mais c'est qu'une simple rumeur qui est finalement pas très importante en ce moment. Et c'est à peu près tout de ce qui se passe pendant cette pause internationale ou en Serie A. Franchement, on ne parle pas de grand-chose ici. Il y a franchement pas beaucoup d'actualité. On est plus. Ah, si, cette petite anecdote qui va pas être marrante, mais qui va être assez intéressante du point de vue politique ou simplement raciste en Italie. Donc
Café
là, la
Berlin,
page
excuse-moi.
de. C'est pas Berlusconi pour une fois. Mario
Ah.
Balotelli, donc le joueur de l'Inter, qui est donc de couleur foncée, qui est pourtant un très bon joueur, mais qui au fil des matchs essaie de se faire huer ou siffler ou balancer des cris de singe dans les stades, dans les divers stades, et qui là sur Wikipédia, le Wikipédia italien, c'était mercredi. Un petit malin a eu l'intelligence de marquer sur cette page de Wikipédia, sur la page de Mario Balotelli, Sporco Negro, qui veut dire en gros sale nègre, sur la page de Balotelli, ce qui renforce ces idées d'encyclopédie en ligne auquel tout le monde peut modifier n'importe et mettre n'importe quoi. Bon, c'est qu'une simple anecdote, mais qui démontre bien l'esprit en Italie, de l'esprit politique et que comment on est en Italie en ce moment, que ce soit dans les stades ou même en dehors.
Et d'ailleurs, en parlant de page Wikipédia, je vous conseille d'aller voir la page Wikipédia de Johan Gourcuff sur Wikipédia anglais. Donc maintenant, Gourcuff s'appelle Johan et je sais plus, mais un deuxième donc à consonance sud-américaine, il me semble. Voilà, pour l'anecdote. Merci
Ah non,
Valentin.
j'ai juste vu que Divi a mis plein de X sur le sur
Oui,
la, la, la...
Dizzy s'excite en off depuis tout à l'heure. Vas-y, tu peux réagir.
Mais moi, personne ne me donne la parole, donc je suis obligé de m'imposer en off. Bon, j'avais une petite question pour Valentin, parce qu'en fait, j'ai cru lire sur un site internet allemand que Luca Toni, donc tu parlais de lui à Napoli tout à l'heure, si je me souviens bien, en fait, vu qu'il est très insatisfait avec ce qui se passe actuellement au Bayern, on parle d'un retour en Italie, et moi, j'ai lu que Luca Toni pourrait revenir au Milan AC. Est-ce que tu as des infos?
Bah, à vrai dire, depuis le début de la saison, Tony, on le voit partout, on en parle partout. Enfin, quasiment partout. Donc, ouais, il y a la piste Milan qui a été évoquée. Maintenant, il y a la piste Napoli qui sort. À vrai dire, on peut encore avoir des certitudes sur où il pourrait aller, surtout vu sa situation au Bayern, là, avec Louis van Gaal. Donc, non, c'est Milan, c'est une piste palpable. Comme le Napoli ou n'importe lequel. Maintenant, pour le Milan, ça pourrait être intéressant, mais pour le Napoli aussi, avec un trio entre Quagliarella, Lavezzi et Toni qui pourrait être très, très complémentaire. Et on y pense du côté de Naples. Maintenant, c'est vrai que pour le Milan, c'est avoir un grand gabarit comme ça qui a déjà fait ses preuves, même si ces derniers temps, il est un peu à la limite, que ce soit physiquement, comme il joue pas tout simplement et qu'il revient de blessure, ou bien même au niveau des stats de la dernière saison qui n'était pas forcément flamboyante. Donc bon, Toni, c'est avant qu'il signe dans un club, on pourrait énumérer n'importe quel club où il pourrait signer.
Bah d'accord, merci beaucoup Valentin pour ces petites quelque chose à répondre par rapport à ça d'ici.
Non, ma foi, Roméo.
Eh ben voilà, ok. Ah, en fait, désolé, je viens de me défoncer le coude, donc on va pouvoir passer tout de suite
à la partie Espagne de donc la Liga, la Liga BBVA, la Espera, comme dirait Habib. Alors qu'à l'instant, Monaco vient de gagner 2-1 en match amical à Arles, contre Arles à Draguignan. Donc on va tout de suite passer à la Liga. Cette semaine en Liga, et ben Mamadou Diarra est revenu contre Séville. Donc on parlera un peu du match parce qu'on n'a pas pu en parler de la déroute donc madrilène à Séville avec Heli qui est là avec nous. On va pouvoir comme autre info, il y a la blessure de David Villa qui s'est blessé contre Santander. Voilà. Petit Roberto Carlos qui a déclaré qu'il était prêt à jouer 6 mois au Real sans rien toucher. Il a passé des années merveilleuses à Madrid et qu'il considère le Real comme sa maison. Moi, je rajouterais blanche. Voilà, pour le petit jeu de mots. aujourd'hui... Comment ?
On dira rien. Hein, c'est
bon. On vaut mieux pas.
Non, mais enchaîne, oui, enchaîne, on va faire l'impasse.
On va garder ça secret. Vous avez sûrement dû en entendre parler. Cristiano Ronaldo a été victime d'un sorcier. Okay. Alors, selon les quotidiens 24 Horas et Correio da Mania, merci beaucoup. Un sorcier espagnol du nom de Pepe aurait été engagé donc pour 15 000 euros il y a 2 semaines par une femme étrangère riche et trahie afin de mettre fin à la carrière de Ronaldo. Et le jeteur de sorts revendique la blessure de Ronaldo contre l'OM. Voilà, il dit que cette dame l'a engagé pour mettre fin à la carrière de Ronaldo. Je le fais, c'est un travail, je n'ai rien contre lui personnellement, mais j'irai jusqu'au bout.
Cool.
Voilà. Un autre, alors selon les révélations, après les révélations du sorcier, toujours selon donc, le journal 24 Horas, un autre féticheur, Nogueira, donc, connu au Portugal sous le nom de sorcier de Faf, il a été contacté donc mardi. Il a été contacté mardi par un proche de Cristiano Ronaldo pour contrer la magie noire de ce prétendu sorcier espagnol. Voilà pour la petite info, je pense que vous en avez entendu parler. Et l'actu aussi de la semaine, c'est le nouveau stade de l'Atlético de Madrid. Vous avez dû entendre parler, donc l'Atlético qui va déménager à la Peneta. Je ne sais pas si je le... À la Peneta, pardon. Donc voilà, si vous ne le visualisez pas très bien, c'est un stade olympique où il n'y a qu'une tribune. Et tout autour, c'est des espèces de tribunes en cailloux comme un ancien théâtre romain. Donc voilà, il va être totalement remis à neuf, le niveau de la pelouse baissé, voilà. Donc n'hésitez pas à voir les photos si vous en trouvez. Je parlais tout à l'heure de la Liga et donc de la défaite madrilène à Séville la semaine dernière. Eh ben Heli, t'es là, tu vas pouvoir nous en parler parce qu'on l'a pas évoqué. Donc cette défaite 2-0, il me semble. Tu confirmes?
2-1.
Alors
2-1.
2-1. Ouais. Ah merci. Donc on a le traducteur même avec Ali. Parce qu'Ali, on t'entend pas très bien. Donc Ali, tu peux. Est-ce que tu es là déjà?
Oui, je suis là. Je sais pas si vous m'entendez. Alors, ou pas.
On t'entend. Essaie de crier.
Là, vous m'entendez?
Ah bah voilà.
Je vais crier pendant 15 minutes.
Voilà, tu penses qu'il va falloir faire ça.
Bon, on a beaucoup parlé bien sûr de cette défaite. Bon, on n'a pas pris en compte que Séville à domicile, c'est difficile à battre aussi. On a eu 30 pages dans le topic Real, vu qu'on attendait cette première défaite pour ça bien sûr, sur les recrues et les bilans bien sûr. Puis, bon, on a perdu 2-1, ça aurait pu être pire sans le très grand match de Casillas. Je pense que beaucoup en ont entendu parler, avec 2 arrêts exceptionnels. On a vu aussi le retour de Mamadou Diarra, qui a fait un très bon match pour un retour, même si le milieu de Séville a pris le dessus. Vu que, bon, en première mi-temps, On a vu un Marcelo par contre qui a été très mauvais, ça a pénalisé quand on a Alves, Navas et Adriano. C'est difficile à centrer, surtout que les deux buts viennent sur le centre. Et on défense à part Marcelo quand même. On a eu Pepe qui a fait un bon match quand même en marquant son premier but officiel avec le Real. Offensivement sans Ronaldo, hélas, on a un peu souffert. Puis il n'y avait pas trop de percussions avec Benzema qu'on n'a pas beaucoup vu sauf sur un raté en première mi-temps. Raoul qui a été bouffé physiquement par Dragutinovic et Skilacci. Skilacci qui s'est blessé en première mi-temps, qui est sorti pour Navarro. Kaka qui est passé à côté de son match aussi. Malheureusement, on n'a pas eu beaucoup de solutions offensivement. D'ailleurs, le but était sur coup de pied arrêté, juste après l'arrêt miracle de Casillas. On a souffert énormément. Mais bon, 2-1, on s'en sort bien. Séville, avant ce match, avait gagné, si je me rappelle bien, avait gagné sur une série de 6 victoires. 2-0, 4-1, 4-1, 2-0, 2-0, 4-0.
Bon, oui, oui.
C'est une équipe très en forme. Mais bon, là, on a un match assez facile. Facile après la trêve, il y a le retour d'Arbeloa, de Las et de peut-être Van Nistelrooy et de Cristiano Ronaldo, bien sûr. Ça devrait aller mieux avec de larges victoires, j'espère. Je pense que c'est ce qu'il y a à dire sur ce match. Après, pour passer au Barça, il y a le match après la trêve, Barça-Valence, avec la blessure de Diaz, qui l'a mentionné, et la blessure aussi de Manuel Fernandez, qui est revenu d'une blessure.
Allô,
oui.
On t'entend plus très bien.
Allô.
Bon, on n'entend pas très bien Ali, désolé. Donc on va passer. Donc je sais pas si vous avez bien entendu. Donc il vous expliquait que par rapport au Real, donc il fallait souligner la belle prestation de Séville, parce qu'on a beaucoup parlé de la défaite du Real, de la mauvaise performance du Real, mais Séville a bien joué. Donc voilà, on va pouvoir passer au match du Barça. Khaled, tu vas pouvoir nous en parler.
Bah, c'est une victoire assez courte contre Almeria. On a eu beaucoup d'occasions de durcir le score. Mais bon, c'est des matchs que des fois, tu joues pas terriblement bien, mais que l'essentiel, c'est d'avoir les 3 points. 3 points qui nous donnent un petit matelas confortable de points vis-à-vis du Real qui a perdu à Séville. Voilà quoi. Maintenant, je sais que ce genre de match-là, on pourra pas toujours les gagner. Là, on a pu le gagner tranquillement 1-0, mais il faudrait qu'à l'avenir, on se mette le plus vite possible à l'abri, surtout contre ces équipes-là. Et voilà, quoi. Sinon, au Barça, il y a une mini-révolution sur le côté gauche, sur l'attaque offensive gauche. Il paraît que Pedro va faire ce que Messi a fait à Juli, ce qui veut dire qu'il va lui piquer la place vu ses bonnes performances et vu qu'en plus c'est lui qui a marqué contre Almeria, quoi.
D'accord.
Voilà pour le Barça. C'est pas bon. Sinon, voilà quoi. Mais je pense que ce joueur est vraiment à surveiller, le jeune Pedro qui vient la grande fois.
D'accord. Voilà. Ah bah merci pour par rapport. Et au niveau du Barça, donc rien de croustillant, pas d'infos, même d'infos extra sportives par rapport aux joueurs cette semaine.
Extra sportive, non quoi. Il y a
la blessure de
Xavi. La Fiorentina pour soutenir Messi dans la qualification de son pays, qui est Argentine. Mais sinon, non, il y a pas vraiment d'infos croustillantes.
D'accord. Et ben, alors que Ali, on t'a pas entendu, donc tu nous signales la blessure de Xavi. Voilà. T'as oublié la blessure de Xavi, Khaled. Voilà. Khaled. n'est pas là. Donc voilà, on a fini pour la Liga. On va tout de suite au Portugal avec toi, Pierrot, mon ami Pierrot. Il y a un fait très grave, un rapport avec surtout la sélection portugaise. C'est Miguel qui a perdu sa petite fille.
Oui, voilà. Miguel a vu sa fille de 8 ans mourir après une chute de 6 étages. Donc, je sais pas si on va le revoir avec Valence tout de suite. Bon, déjà, il a pas été sélectionné avec le Portugal, c'est légitime. Donc, bah.
Oui.
Non, Zizi, il ne l'a pas acheté par la fenêtre.
Oh. Cette chute de 6 étages, je me demande quand même.
Bah, si tu veux, pour plus de détails, elle est tombée du 9e étage et s'est écrasée au balcon du 3e étage. Donc, voilà pour Miguel. Oui. Y a pas que d'actu rigolote, hein. Bon, bah, oui. Sinon, pour je vais essayer d'enchaîner après ça. João Alves, qui était l'entraîneur des moins de 19 ans de Benfica, est donc le nouvel entraîneur du Servette Genève. Voilà. Donc, Valentin, c'était un commentaire.
Ah, je suis mille fois heureux, c'est connu comme le roi de la promotion au Portugal, à ce qui paraît. Et en plus, on a notre Portugais dans l'équipe, notre meilleur buteur. Tant marrant, qui est trop fort, qui est trop bon. Et donc, on va être champion de Suisse en 2014, je crois qu'on est champion de Suisse. Ouais. En 2014.
Oui, c'est ça, c'est prévu pour 2014. C'est bien ça. Ouais.
C'est selon Majid Pichard, hein, notre président, et puis on le ramène à.
Juste avant le titre en Coupe du Monde de la Suisse.
Ouais, non. João Alves, il semble le prédécesseur de Souleymane Diawara. Hein. Pas de s'estimer. Ah non, mais vous savez pourquoi je dis ça?
Ouais. Ah,
parce que c'est un gars qui a toujours joué avec des gants sur le
ah oui,
et quand c'est il était national, quand il était footballeur. Et donc avec et en plus, c'est pas anodin, moi je vous dis qu'il vient de la Servette parce que sa première sélection en équipe du Portugal, c'était contre la Suisse. Bon, la Suisse évidemment avait gagné 3-0. Mais donc ça, c'est un classique du bon, on va bientôt être champion de Suisse, on remonte bientôt. Et méfiez-vous tout le monde, Servette ça revient, 3-2 le grand club. Voilà. 79, vous voyez, je m'adapte même à vous en disant 79.
Merci. Bon, ouais, Benfica, les autres actus, c'est les joueurs prêtés. Hein. Hassan Yebda, ouais. Qui marque pour Smooth, Makoukoula avec Kayseri Sport et Gilles Bignat avec Neuchâtel. Donc, si tu veux encore dire quelque chose, Valentin, sur Neuchâtel, vas-y.
Neuchâtel qui fait une excellente saison. Ils font un excellent début de saison. Ils sont deuxièmes. Ils sont deuxièmes avec 7 points de retard comme sur les Young Boys. Mais ils sont très, très, très bonne saison. Et franchement, il y a une belle équipe, il y a des bons joueurs. Bon, il y a Bignat, ouais, mais il y a aussi Brown qui est vraiment super. Il y a Gavranovic qui est excellent, qui a marqué lui aussi avec les espoirs aujourd'hui contre l'Estonie. Ah, il y a une très belle équipe cette saison.
Oui.
Et donc, l'une des infos de la semaine, c'est la publication des 10 plus grosses clauses de transfert au Portugal. Alors, de la 6e à la 10e place avec 30 millions d'euros, on retrouve Javi Garcia, Saviola, Ramir Belucci et Bruno Alves. Ensuite, 4e et 5e avec 40 millions d'euros, on a Di Maria et Ariza Makoukoula. Si, il a bel et bien une clause à 40 millions d'euros. Ensuite, bon, bah là, on trouve vraiment des gros espoirs du foot. Hein. 50 millions à la 3e place, David Luiz. 60 millions à la 2e place pour Oscar Cardoso. Et enfin, le numéro 1, le big boss, le top, c'est Hulk qui a une clause à 100 millions d'euros. Voilà. Ensuite, le Sporting qui a fait son pire début de championnat depuis 17 ans. La dernière fois que le Sporting avait fait un pire début, c'était sous Bobby Robson.
On s'en compte.
Le pauvre Robson qui voit ses records battus, le pauvre. Il faut qu'il soit mort pour que Paulo Bento rentre dans la légende. Le même Paulo Bento qui se voit, dont le président José Eduardo Betancourt fait des déclarations d'amour, hein. C'est-à-dire que qui dit que le principal problème n'est pas l'entraîneur mais l'attitude des joueurs, et aussi Paulo Bento jusqu'à la fin, c'est ça même, vous voyez. Et enfin, pour terminer avec le Sporting, Rabiou Ibrahim, donc l'un des grands espoirs du football africain, qui a été repéré dans une des académies africaines du Sporting, qui est maintenant à Lisbonne, refuse de signer un contrat pro. Il dit qu'il est malheureux à Lisbonne et qu'il compte s'en aller gratuitement en janvier, donc on va voir. Et l'autre info transfert, ce serait Chelsea qui souhaite recruter le défenseur central Daniel Carrizo. Donc, après Manchester United, c'est maintenant Chelsea qui s'attaque, on peut le dire, le plus grand espoir portugais en défense centrale. C'est à 19 ans, c'est le taulier de la défense du Sporting, donc c'est dire si il fait des prestations très encourageantes. Et donc, il va peut-être rester encore un ou deux ans, je le vois mal partir dès la fin de l'année, mais c'est un joueur à suivre. Et sinon, du côté de Porto, il n'y a pas grand-chose à noter. Hein. Porto, c'est toujours calme. C'est sur le terrain qu'on en parle le plus.
D'accord. Eh ben, merci pour ces petits actus Portugal. On te retrouve juste après pour la page portugaise, là, pour la Seleção. Voilà. Donc, on va finir par l'Allemagne. L'Allemagne avec Dizzy. Vas-y Dizzy, lâche-toi.
merci pour la parole. On va donc passer un championnat intéressant pour changer. Je déconne. Je crois qu'on a. C'est là qui arrive à retardement, je crois. Bon.
Il est tard.
Je pense qu'on va faire un tout petit résumé de ce qui s'est passé en ce début de championnat. Je crois pas qu'on en ait parlé
précédentes.
Hein ?
Fais un grand tour plutôt.
Un grand tour très complet.
Voilà.
Un très grand tour.
Vas-y franchement. N'aie pas peur des mots.
Donc je vais vous annoncer les résultats importants de la dernière journée, ce qui va nous montrer un petit peu ce que ça donne en ce début de saison. Je vais commencer bien sûr par le résultat le plus important, c'est Leverkusen qui a battu Nürnberg 4-0 à domicile.
Avec un but de Ender Diok.
On va en parler tout à l'heure. Et surtout la défaite de Stuttgart à domicile contre Brême et la défaite de Berlin contre Hambourg à domicile également dimanche soir, 1-3. Match assez curieux par ailleurs, mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Je vais juste vous dire qu'en
fait,
il y a un gros écho. Voilà, oui. Je pense qu'il est parti. Dans ce match, Berlin menait 1-0 par un but de Friedrich, marqué de la tête si je me souviens bien, c'est Friedrich, oui. Et en fait, Hambourg était donc mené et deux fois de suite, en l'espace de même pas 5 minutes, je crois, il y a un long ballon en avant pour les joueurs de Hambourg et le gardien remplaçant de Berlin sort de sa cage et le dégage de la tête. C'est un joueur de Hambourg qui reprend donc à 30-40 mètres du but et qui n'a plus qu'à ajuster son tir de cette distance-là pour lober le gardien. Donc ça faisait 2-1 puis 3-1, résultat final. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que Hambourg est tout simplement premier à égalité de points avec le Bayer Leverkusen. Et ce qu'on peut dire également assez symptomatique de ce début de saison, c'est que le Bayern a fait un pauvre petit 0-0 sur sa propre pelouse contre Cologne, donc assez symptomatique pour le début de saison des Bavarois. Et on constate qu'après les 8 premiers matchs, c'est donc le Bayer et Hambourg qui sont en tête avec 20 points, qui ont déjà 4 points d'avance sur le troisième qui est Schalke 04. Schalke 04 pour les Français d'entre vous, ce qui devrait faire pas mal de Français d'ailleurs. Et le Werder 4e avec 15 points, Hoffenheim 5e, et on remarque que le champion de l'année précédente, Wolfsburg, est seulement 7e avec 13 points en 8 matchs. Et le Bayern les suit avec un point de retard, 8e seulement pour Louis van Gaal, donc, qui est le Bayern de Munich. C'est assez mal parti pour le Bayern. Et on peut préciser que Stuttgart, qui avait terminé 3e, est seulement 13e au classement. Donc, ce qu'on va faire, c'est que si vous avez des questions au sujet de la Bundesliga, vous me les posez.
Non.
Puisque je me rends compte que faire un résumé de tout ce qui s'est passé, ça va être un petit peu long. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions, et puis sinon...
Non.
Parle-nous de Leverkusen. Qu'est-ce qui a changé
dans le classement?
Alors, non. Vous voulez vraiment que je vous parle du Bayern? Dans ce cas-là,
mais ils sont premiers. Vas-y.
Hein?
Vas-y, ils sont premiers.
Profite-en.
Donc, il s'agit effectivement pour le Bayern du meilleur début de saison de l'histoire du club. Ils sont premiers après seulement 8 journées avec 20 points, la meilleure différence de but sur Hambourg avec un but de différence. Et le Bayern possède la meilleure attaque du championnat derrière Hambourg. Et la meilleure défense du championnat avec Schalke 04. Ce qui a changé, c'est qu'on a un nouvel entraîneur qui est arrivé, qui s'appelle Jupp Heynckes, qui a gagné notamment la Ligue des Champions avec le Real de Madrid en 1898, si je me souviens bien. Qu'est-ce qui te fait rire?
Le siècle.
Non, donc,
et
entraîneur,
en Suisse, ça donne quoi? Ça donne quoi en Suisse?
De quoi?
À la date.
1998, ça donne 1998.
Ouais, pour les normalement.
Pour les noms français d'entre nous. Donc le Bayern a fait un très très bon début de saison avec des recrues de taille. Vous n'êtes peut-être pas sans savoir que le Bayern a recruté Sami Hyypiä de Liverpool, qui fait un début de saison énorme et qui apporte la stabilité nécessaire au club. En plus de ça, un recrutement très intelligent. Et peut-être un petit peu chanceux dans le sens où une recrue comme Ehrendar Diok s'est intégrée très rapidement. Il a déjà, après 8 matchs, 4 buts, si je me souviens bien, plus un but en premier tour dans le premier tour de la Coupe d'Allemagne.
Mais est toujours remplaçant en équipe de Suisse.
Toujours remplaçant en équipe de Suisse, c'est possible.
D'ailleurs, Strehler, non?
Mais,
Non, Strehler, il n'est pas prêt.
Tant qu'à parler de Der Diok, on va laisser parler Valentin peut-être un petit peu, mais je dois dire que je l'ai rencontré cet été quand j'étais en Allemagne, et c'est un gars qui est très détendu, très sympa. Il s'est très vite intégré et il se prend pas la tête, et on sent qu'il se sent bien à Leverkusen. Et comment s'appelle-t-il, Jupp Heynckes, donc l'entraîneur, avait déjà dit que ce joueur-là, il pourrait devenir un très grand joueur à l'avenir. Donc je sais pas si Valentin, toi, tu veux apporter des précisions.
Non, mais on est tout simplement convaincu maintenant que c'est un super joueur, peut-être l'attaquant le plus talentueux techniquement techniquement et physiquement, qui s'est allié les deux, qu'on a eu depuis peut-être la première fois qu'on a un attaquant si talentueux, qui est extrêmement bon techniquement, qui sait jouer en 9,5 comme il sait jouer en pointe. Ouais, franchement, c'est un super joueur, et moi, ça me fait plaisir de le voir titulaire dans un club, surtout qu'il a été remplaçant à Bâle, et puis on se rend compte que finalement, c'était pas anodin qu'il a été pris en équipe de Suisse à l'âge de 19 ans, qu'il marque pour son premier X-Play, qu'il fasse des trucs comme ça, alors qu'il était toujours barré par Strehler du côté de Bâle. Bon, il y avait une petite anomalie à cause de Christian Kroos notamment, mais c'est maintenant de le voir à l'étranger, de le voir presque exploser comme ça, ça fait plaisir. Et puis quand c'est un gars qui nous sauve du coup, même en Lettonie, quand on perd 2-1, et puis qui rentre, et même pas à peine 10 secondes plus tard, il t'égalise sur une tête superbe. Oui, célèbre très haut et surpuissant, franchement, ça fait plaisir. Et puis j'espère que cette semaine on va le voir un peu plus avec l'équipe de Suisse, parce qu'il en mérite amplement, et surtout il apporte un profil bien différent à Frey et Kouffo, et ça peut être que pour nous du bon.
Ah, tu l'as évoqué, c'est un joueur très complet, très à l'aise au dribble, qui est capable de gestes vraiment, je dirais pas extraordinaires, mais hors du commun pour un attaquant. Et il travaille beaucoup, il travaille vers l'arrière, donc il se replace très bien, il est humble et il sait ce qu'il doit travailler, il écoute les conseils de son entraîneur, donc c'est quelqu'un qui risque d'aller très loin. Et donc j'en profite que Habib soit là pour déjà pour lui dire bonsoir. Et deuxièmement, je l'ai attendu exprès parce que je me disais que ça l'intéresserait, donc je vais parler de Stefan Kießling, puisque...
Attends une seconde, je vais chercher le Poppers.
Donc pourquoi j'en parle, c'est pas parce que c'est mon joueur préféré, mais parce,
ouais, parce que c'est la nuit et que t'as envie de te tripoter, quoi.
On en reparlera quand on sera en privé, Habib. Et tout simplement non. Parce que c'est le meilleur pardon,
non, s'il te plaît. J'ai pas envie de parler avec toi avec non, il est pas encore minuit, je peux pas.
Non, bon. Donc Stefan Kießling, qu'est-ce qu'il y a de particulier? C'est que c'est le meilleur scoreur de ce début de saison. Il a déjà en 8 matchs marqué, si je me souviens bien, 6 buts et 3 passes décisives. Et donc on a eu, il y a eu en Allemagne un débat quant aux attaquants de la Nationalmannschaft, donc de la sélection nationale, parce que Kaká, l'Allemand d'origine brésilienne, a été sélectionné de Stuttgart alors qu'il n'a marqué qu'un petit but. Non, il n'a pas marqué, je crois d'ailleurs. Il a fait qu'une passe décisive. Il est complètement out, entre guillemets. C'est pareil pour Miroslav Klose qui est sélectionné, qui n'a pas encore marqué. Mario Gomez a lui 3 buts, mais est pour l'instant assez pathétique avec le Bayern. Donc tous les attaquants sélectionnés, Podolski qui en fait partie, qui est reparti à Cologne. Tous les attaquants sélectionnés sont donc très mauvais en ce début de saison et tout le monde se demande pourquoi Stefan Kießling n'est pas sélectionné par Joachim Löw, qui avait dit il y a pas si longtemps que ça qu'il ne sélectionne que d'après les performances. Et donc beaucoup de gens se posent des questions par rapport à ça et critiquent Joachim Löw directement. Et Stefan Kießling, il y a quelques jours, a donc parlé à ce fameux chiffon qui s'appelle Bild en Allemagne. Et il a dit que Joachim Löw ne lui avait pas parlé pendant les 8 derniers mois et qu'il n'a absolument pas de nouvelles et il ne sait plus trop quoi faire, mis à part continuer à marquer des buts pour aller à la Coupe du Monde 2010. Donc voilà, il y aurait beaucoup beaucoup de choses à dire concernant le Bayern notamment, Wolfsburg, Berlin et compagnie, mais je pense que je vais laisser la parole un petit peu, avant que vous ayez des questions.
Tu veux nous parler de l'hôtelier du Bayern dont t'as pas fait mention, c'est Rolfus.
oui, bah lui aussi fait un énorme début de saison, il marque plus que jamais, je crois qu'il est déjà à 4 buts, et il est très très important pour le club et je crois qu'il a la moyenne de notes la plus élevée en Bundesliga, les notes du kicker. Il fait un énorme début de saison aussi. Ce que j'ai oublié de mentionner, c'est peut-être que vous attendiez cela, c'est au Bayern, ce fameux duo magique de Robben Ribéry, ce qu'ils appellent Ribéry en Allemagne. Donc, effectivement, c'est un duo qui a très bien marché pour le premier match. Enfin, dès le premier match, on peut dire, mais Franck Ribéry a des gros soucis de forme. Il n'est pas en forme tout simplement et on se demande quand est-ce que ça va arriver et on constate que quand le Bayern joue bien, quand il y a des accents offensifs intéressants et plus ou moins comment dire, spectaculaires, c'est à chaque fois Ribéry ou Robben qui les mettent, ces accents. Et donc on se dirige de plus en plus à, alors que Habib est tombé de ses toilettes. Se dirige de plus en plus vers une Ribéry dépendance qui était déjà une Ribéry dépendance la saison passée. Donc on se demande bien d'où ça peut venir, que du côté du Bayern on fasse confiance pour gagner les matchs seulement à deux joueurs alors qu'il y a des recrues derrière qui auraient dû marqué un tournant dans le club. Je pense à Mario Gomez, qui est la recrue la plus chère du Bayern, qui a coûté la petite somme de 35 millions d'euros. Et ça marche toujours pas. On va lui laisser un petit peu de temps. Mais comme je vous le disais, on se dirige de plus en plus vers une dépendance de ces deux joueurs. Et quand ils ne seront pas en forme, eh ben, ça donne ce qu'on a vu le week-end dernier, un pauvre 0-0 contre Cologne.
Merci.
Moi, je voulais te poser deux questions à Dizzy. C'est deux joueurs du Bayern qui, je pense, sont deux surprises. Je pense à Hans Jörg Butt qui, finalement, n'est pas si mauvais cette saison.
Effectivement, bah, il a remplacé Michael Rensing, qui donc n'arrive plus à s'affirmer. Et Hans-Jörg Butt, il a déjà 36 ans, si je me souviens bien, ou 35 ans. Pour la petite anecdote, c'est lui qui était dans les buts en finale de Ligue des Champions 2002 avec le Bayern. Hein. Petite anecdote, je dis ça, je dis rien. Non, bref, Hans-Jörg Butt, c'est vraiment un très bon gardien qui avait fait une malheureuse saison. Je crois qu'il ne restait qu'une saison au ouais. Sporting, non, c'est ça ?
À Benfica.
Au Benfica, exactement.
Oui, c'est. Donc, disons qu'il a peu de chance parce que à cette époque-là, Kim, il était très très bon. Ça, tout ça a changé.
Donc Hans-Jörg Butt est vraiment celui dont le Bayern a besoin, peut-être pour cette saison. Je pense que dès la prochaine saison, ça sera terminé. Ils verront vraiment. Ils se pencheront sur le cas de Manuel Neuer, sans doute, de Schalke 04, pour les Français d'entre vous, je le rappelle. Et donc, je pense qu'ils vont se pencher sur ce cas plus intensément, et on verra bientôt un nouveau gardien. Mais Hans-Jörg Butt, c'est un gardien qui a déjà de l'âge, mais qui a encore des très bons réflexes et qui est assez, j'ai le mot en allemand, encore une fois, mais pas en français, à qui on peut faire confiance, quoi, pour ce poste. Et je pense qu'il apporte une stabilité que Michael Rensing n'avait certainement pas.
Et puis moi, sinon, c'était plutôt sur Hambourg. J'ai vu qu'ils ont perdu là, Guerreiro et Petric. Ils n'ont plus que Berg en attaque. Est-ce que tu penses que ça va leur être préjudiciable pour la suite de la saison là ? Enfin, parce que c'est quand même deux des gros attaquants importants du HSV. Et ça ne va pas être facile pour eux de les remplacer déjà, mais surtout de jouer sans eux, non ? Surtout Petric qui est un véritable lien entre milieu attaque, pour moi.
Voilà, ouais, t'as absolument raison de l'évoquer. Ils ont un petit problème en ce moment, c'est-à-dire que Guerreiro s'est blessé, et je crois que c'est une rupture des ligaments croisés. Ouais, Petric, je crois que c'est cette semaine, s'est blessé également. Mm-hmm. Il s'est fait opérer, je ne sais plus exactement ce qu'il avait, mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne jouera pas le reste du premier tour. Donc, de la phase aller, par contre, pardon. Donc, c'est vrai qu'il y aura peut-être un petit souci. Il ne reste que Berg en attaque, il me semble. Et donc, ouais, ça
peut poser des... Et puis deux jeunes, oui.
Voilà, donc les jeunes aussi, oui. Mais ce qui pose problème, c'est que c'était les deux attaquants qui étaient en forme en ce début de saison, surtout Petric qui était très important. On rappelle que Hambourg a perdu Olic qui allait au Bayern. Donc c'est vrai qu'il y aura peut-être un petit souci, mais ils ont encore des joueurs derrière qui ont la qualité
et l'efficacité devant. Hein. Berg, je me souviens déjà l'Eurosport avec la Suède, c'est pas mauvais. Hein. C'est
même ah oui, absolument. Oui.
Maintenant. Est-ce que porter l'attaque d'Hambourg tout seul pendant au moins jusqu'à la trêve, là, ça va pas être facile pour lui. Hein.
Non, c'est clair, mais Marco Sacchi, comme tu dis, il était le meilleur buteur à l'Euro Espoir. Et il vient de Groningen et il a assez impressionné pendant cet Euro Espoir, donc Hambourg l'a engagé. Donc lui, non, je dis pas que c'est un mauvais attaquant, mais le fait de devoir... jouer tout de suite parce que j'avais l'impression qu'il s'est pas encore très bien adapté à la Bundesliga. Il a besoin d'un petit peu de temps encore. Il a du talent, c'est sûr, mais après il faut voir qu'il sera tout seul en attaque sans doute. Et derrière, ce que je voulais dire à la base, c'est qu'il y a quand même des joueurs qui sont forts devant le but, comme Zé Roberto, Eligiero Elia qui fait un début de saison énorme aussi. Et je pense qu'il y a des gens qui peuvent éventuellement au milieu être dangereux devant le but, mais c'est vrai qu'ils auront un problème d'attaquant et ils vont pas recruter un autre attaquant pendant ce temps-là. Donc c'est vrai qu'il y aura peut-être un souci, mais après on verra comment il va s'en sortir, Bruno Labbadia. Et je rappelle, pour terminer, on va peut-être terminer par là, je rappelle que le week-end prochain, donc ce week-end, l'Allemagne joue face à la Russie et pour se qualifier pour la Coupe du Monde. J'ai un petit peu de mal pour parler. Et le week-end prochain, ce que je voulais dire, c'est qu'il y aura un beau Hambourg Bayer Leverkusen, le premier contre le deuxième.
Merci Didi. J'en profite pour passer un petit but. Voilà, bah, c'est Modeste, Anthony Modeste, en toute modestie, donc qui a marqué. Et ça fait 1-0 pour l'équipe de France contre.
T'as fait quoi ce soir? T'as mangé quoi là?
Je sais pas, dis-toi. Alors ça fait 1-0 contre.
C'est les blagues que t'as trouvées dans Danonino, non? C'est spécial ta blague, hein.
Donc on va tout de suite passer aux éliminatoires de la Coupe du Monde 2010, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, messieurs, dames. Et ben alors on va tout de suite y passer.
Par toi, il n'y a pas de dame.
Il devait, mais elle a eu un empêchement. Voilà. Oui, Anne sera bientôt sur les ondes de Génération Soccer, donc restez à l'écoute.
Faut que Dan la paramètre.
Comment?
Faut que donne la paramètre.
Oui, c'est vrai, pardon.
Oula. Oula.
Private joke. Dan
dans la passe, ça devient chelou.
Private joke, comme tu l'as dit. Donc demain à 21h, au Roudourou de Guingamp, la France va affronter la superbe équipe des îles Féroé. Donc on rappelle le classement du groupe. La France a 4 points de retard sur la Serbie à 2 journées de la fin. Donc autrement dit que c'est mal parti pour la première place. La Serbie reçoit la Roumanie demain à Belgrade. Et le deuxième match, qui sera 4 jours après, donc lundi prochain, la Serbie ira en Lituanie. Alors que la France recevra l'Autriche. Voilà, donc France qui est Féroé. Qu'est-ce qu'il y a à dire sur ce match, à part que, sauf surprise...
Allez, les équipes quoi, hein.
voilà, je pense qu'on a tout dit, hein. L'équipe de France devrait faire un carton, hein. On est tous d'accord là-dessus.
Non.
Oui, il devrait.
Devrait.
J'aimerais juste préciser, je sais pas si vous l'avez entendu, la magnifique pub sur RMC pour l'équipe de France, avec une grosse voix, la Sylvester Stallone, qui nous raconte que... il y aura le match important entre les îles Féroé et la France à Guingamp. Un match décisif. Donc si vous avez envie d'y aller, payez 60€ pour avoir une pour voir îles Féroé France.
Oui, il reste
à
plein
Guingamp, pour surtout. Aller à Guingamp, quoi.
Sur un stade de 14 000 places, il y en a encore, c'est dire.
Alors déjà, essayez de trouver Guingamp, je vous souhaite bonne chance.
Non, moi le final, je suis passé là une fois à côté avec l'autoroute, sur l'autoroute.
Pourquoi t'étais puni?
Voilà. Donc bah Didi a fait la bonne publicité pour le match de demain, équipe de France.
Et puis comme on parle de Riolo, comment on parle de RMC, Riolo le PD. Il a encore sorti de belles saucisses l'autre fois, c'était bien.
Ah, comme
pêle-mêle. C'est via un club sain. Celle-là, je l'ai vraiment kiffé. Mais...
D'accord, oui, effectivement. Donc, on va pouvoir passer tout de suite. Bah, l'équipe de France, désolé, qui a rien à dire, hein, à part que Squillacci est de retour, que bah, Gomis a eu plusieurs malaises vagos dans la semaine. Voilà, à part ça.
Non, c'était pas des malaises vagos, il paraît.
Si.
Parce que ceux-là, ils interviennent après l'effort et non pendant l'effort.
Et bien, justement.
C'est
malaise. Moi,
tu veux pas comprendre ou pas? Gomis, il est en train de jouer au foot un petit peu. Et puis,
non, il me semble que c'était justement pendant le repos entre deux séances, entre deux exercices, que justement il a eu ce malaise.
Comment t'as fait? T'étais à Clairefontaine, connard?
Bah, c'est pas moi qui le dis, c'est ma source.
L'équipe?
Non, c'est sa grosse sœur.
Voilà, bon, T'as tout compris, ma sœur est dépêchée à Clairefontaine par Génération Soccer. Voilà. Non, ouais, non, mais je sais pas si t'as des infos, mais donc ça serait pas des malaises vagos.
Ok.
Comment?
Passe. Passe.
D'accord. Donc on va passer ces événements assez. Bah, on espère que c'est pas trop grave pour Bafétimbi Gomis.
En même temps, attends, ça fait 4 fois qu'il fait un malaise sur un terrain, mais il faut qu'il fasse quelque chose dans le cours, lui.
Oui, bah, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Bah, d'accord, mais. Et on va pouvoir donc passer au Portugal avec Pirol, Portugal troisième de son groupe, qui joue à domicile contre la Hongrie, c'est bien ça?
Voilà, avec une absence de poids. C'est Pape qui est suspendu, donc. Kero, je vais devoir demander Miguel Veloso. Donc, bon, Miguel Veloso, c'est l'une des grosses satisfactions du début de saison au Sporting. Donc, on peut penser que ça fera le poids, surtout contre la Hongrie. Mais après, en sélection, ça passe autre chose. Et donc, ce sera un vrai test dans un match où le résultat est plus que primordial. Mais je pense que ça devrait le faire. Sinon. On dit que Cristiano Ronaldo serait revenu, donc on devrait revoir un Cristiano Ronaldo et Liedson en attaque. Thiago étant blessé, je sais pas comment sera organisé le milieu de terrain. Donc, normalement, ce sera Raúl Meireles et puis un autre. Ce autre qui pourrait être Moutinho ou Pedro qui a été rappelé, alors que ça faisait très longtemps, hein, le joueur des Glasgow Rangers. Donc, mais bon, comme c'est la Hongrie, et vu le faible niveau qu'on a vu en Hongrie au stade Puskás, ça devrait le faire. De toute façon, tous les regards seront tournés juste avant, puisque les deux matchs n'ont pas joué en même temps. Le match Danemark-Suède précédera donc le Portugal-Hongrie, et c'est seulement à partir de là qu'on saura vraiment si le Portugal a encore ses chances, parce que si le Danemark et la Suède font match nul, Il y aura toute une ribambelle de scénarios possibles, ce qui fait que n'importe qui pourra se qualifier. Et des scénarios qui disent que le Portugal pourra être premier, etc., etc., mais ça va être très compliqué. Je pense, de toute façon, le Portugal joue deux équipes faibles. Donc, Hongrie et, il me semble, un match à domicile contre Malte, si je me trompe pas. Oui, voilà, c'est contre Malte. Donc, le Portugal est quand même. Vu qu'il y a un Danemark-Suède, je pense que le Portugal peut largement être au mondial. Et que de toute façon, si le Portugal ne bat pas la Hongrie, c'est qu'ils ont rien à faire en Coupe du Monde. Donc, gagner ou mourir.
Voilà, c'est le mot. Gagner ou mourir contre la Hongrie pour le Portugal demain. Et bah voilà, merci.
D'ailleurs, je sais pas si vous avez entendu, mais Wayne Rooney, avec sa poésie naturelle, a déclaré: j'aimerais que Cristiano Ronaldo regarde le mondial devant la télé. Oh. Toujours grande classe. Et puis il a demandé aussi: j'aimerais aussi que Messi le regarde devant la télé. Donc en gros, Wayne Rooney, sa mentalité, c'est qu'il aimerait gagner un mondial du pauvre. Ouais, c'est marrant quand on est anglais et qu'on a rien branlé depuis 40 ans.
Justement, on cherche n'importe quel moyen pour y réussir.
Bah, c'est un peu dommage, quoi, quand c'est un grand champion qui t'explique qu'en fait ce qu'il veut, c'est gagner un mondial du pauvre. Ça veut dire que lui, s'il écrase la Tanzanie en finale, tu vois, il en a rien à branler.
Moi non plus, si c'est la Suisse.
Bah, parce que, bah voilà, toi aussi t'es un nul alors.
C'est un Suisse.
Et crois-moi bien que j'utilise le mot nul parce que c'est Valentin et que je l'aime bien. Sinon, j'aurais pas utilisé le mot nul. Roméo, essaye de dire ils vont gagner le Botswana.
Alors, merci Pierrot, on va pouvoir passer à la Suisse qui joue demain au Luxembourg.
Qui est demain au mondial.
Non, et donc, bah, sauf grosse merde, la Suisse.
Non, non, en fait, c'est pas sauf grosse merde, c'est si la Suisse gagne contre le Luxembourg et que
Grèce ne gagne pas.
Grèce et Lettonie font match nul parce qu'ils ont le point Grèce et Lettonie. Donc s'il y a match nul entre les deux, on est au mondial. Sinon, faudra gagner, faire match nul contre Israël mercredi. Maintenant, il y a le gros souci, c'est qu'on devrait se passer du fabuleux Stéphane Christine pour laisser place à l'autant plus fabuleux Philippe Senderos. Donc ça fait un petit peu mal de dire que Senderos va devoir être titulaire avec l'équipe de Suisse. Mmh. Et ça va me faire ça va si si Jeff Tracer veut perforer la défense suisse du côté gauche, côté un petit peu Senderos, à mon avis, ça va pas y avoir trop de problème. Mais ouais, il a dit quoi, Grichling?
Non, parce que Dizzy a cru entendre Stéphane Kissling, mais t'as dit Stéphane Grichling. Ah ouais,
Il y a une grande différence entre les deux. Grichling, c'est le taulier de l'équipe de Suisse.
Tu commences à changer de bord. Attention.
Donc, finalement, demain, on se retrouve avec trois changements par rapport à la victoire contre la Grèce et le match fulgurant de Tony il y a de ça un mois, quand on. Il y a de ça, ouais, c'était quoi, début septembre. Donc, on va se retrouver avec Senderos en défense, avec à gauche Christophe Pichler, à droite, on a Stéphane Lichtsteiner et Funbergen du Hertha Berlin et Senderos dans l'axe. On aura au milieu, à la place de Marco Padalino qui avait marqué contre la Grèce, ce sera Johan Fodlanton qui fait un excellent début de saison, qui marque quasiment chaque match avec le FC Zurich et qui enchaîne les bons matchs avec Zurich, où il est prêté par les Red Bull Salzburg et qui fera logiquement, j'ai envie de dire, titulaire demain sur le flanc droit du milieu de terrain. Avec dans l'axe, on retrouve Gökhan Hiller qui avait été déclaré forfait il y a un mois. À côté de lui, malheureusement, ce sera Benjamin Hugol qui prendra place dans l'axe terrain à la récupération. Alors qu'il y a un autre Suisse qui est en train de faire un début de saison très intéressant du côté de Saint-Etienne, qui est Jelson Fernandez, avec Bled Matuidi à la récupération. Ils sont vraiment pas mal. Et puis devant, malheureusement, j'aurais bien aimé voir Terdiak d'entrée, mais ce sera Frey et Kouffo. Disons que quand on sait le passé contre le Luxembourg, surtout le passé il y a moins d'un an à peu près, on se méfie quand même de cette équipe. Même si, à mon avis, mentalement, on s'est un peu reforgé et ça devrait passer. Mais on devra vraiment marquer très vite pour pouvoir gagner. Et c'est ce qui est importantissime pour le match de demain, c'est de prendre les 3 points. Le reste, on s'en fout. Il y a Greff et Tony, s'ils veulent faire un match nul, tant mieux pour nous. Si on devra se débrouiller pour faire match nul nous aussi contre Israël mercredi. Merci encore à la Moldavie d'avoir égalisé la dernière minute contre la Grèce. Et ça nous facilite la tâche, mais ça ne veut pas dire que tout est acquis. Maintenant, l'équipe de Suisse. Finalement, si elle se qualifie en première place, ce serait une bonne chose, surtout après avoir pris un point dans les deux premiers matchs, puisqu'ils avaient fait match nul contre Israël et donc perdu contre Luxembourg. En se qualifiant en premier, ce serait super pour cette équipe qui montrerait que Otmar Hitzfeld n'est pas forcément le plus. Qui est vraiment un bon entraîneur et même un sélectionneur, même si l'équipe de Suisse n'a pas été facile à gérer depuis maintenant un an et demi qu'il est là. Et ça permettrait de nous décontacter un peu après toute la pression qu'on a fait subir à l'équipe de Suisse ces derniers mois. Et les deux victoires contre la Grèce nous ont fait extrêmement du bien. Et donc si on se retrouve au mondial directement qualifié sans passer par les barrages, même si je l'accorde, hein, on est tombé dans un groupe extrêmement facile avec la Grèce qui est un peu le prototype de l'équipe oubliée en défense pendant tout le match et qui joue à fin défenseur. La pression suisse, oui. Tu connais pas le matin, toi?
Ouais, c'est la pression suisse, c'est un peu comme la pression à Monaco, quoi. Ouh, vous êtes nuls. Ouh.
Non, il y a un petit peu plus. Un petit peu plus.
Bon, quoi, c'est les Bosniaques qui rentrent?
Un peu.
C'est la pression.
Mais en fait... Il y a le matin, le grand quotidien roman et le Blick, le grand quotidien suisse allemand, qui mettent forcément la pression sur cette équipe.
Ah oui, ils sont là, ils disent « Les Suisses, c'est pas bien, vous avez perdu. Maintenant, on passe au tennis avec Roger Federer. » Faut arrêter les conneries. Quoi. Ouais, en plus, que... non mais franchement, juste pour toi, j'aimerais que vous finissiez deuxième et un barrage contre la France. Parce okay, que toi, ça avec va. Moi, tu as été premier du groupe de pourrissons l'équipe de France à chaque fois qu'on peut. Mais si la France tape la Suisse.
Non, mais non.
Ça me fait frétiller le petit Marc, ça je te le dis.
En même temps, je sens pas que les Français puissent parler vraiment mal de la Suisse ces derniers.
Non, mais je pense que si jamais vous chopent en barrage, ils vous cassent.
Hein. Bah, moi je pense pas.
Parce que c'est vrai, vous avez Follenten qui est éblouissant à Zurich.
Ouais, c'est vrai, il est éblouissant à Zurich. Il y a aussi.
Il est bon à Zurich, tu te rappelles, c'est le championnat où Christian Jiménez était très bon, non?
Oui.
D'accord.
Mais c'est le championnat aussi où Sonny Anderson était très bon.
Et Cassedo aussi.
Je n'ai plus d'objection, votre honneur.
Non, c'était le championnat où Sonny Anderson était très bon, où Oliver Neuville était très bon.
Être très bon quand t'es un bon joueur, c'est normal.
Bah voilà.
Je vais te dire, je vais même te dire un truc, Pelé, au Zimbabwe, il aurait été bon. Eh oui, mon gars. Tu vois plutôt avec les quiches qui sont bons là-bas, c'est bon, c'est bizarre quand même. Mais bon, tu me diras.
Il y a franchement des bons joueurs là. Franchement, même si, en attendant Zurich, même si Milan, ça veut rien dire en ce début de saison, ils vont les battre à San Siro. C'est pas forcément la chose la plus facile à faire. Mais d'ailleurs, ça m'étonnerait pas que l'OM ne gagne pas là-bas.
C'est l'OM. Hein.
Voilà. Mais c'est Zurich aussi. Hein.
Bon, je sais pas ce que ça veut vraiment dire, c'est Zurich.
Bah, ça veut rien dire normalement ça voudrait rien dire, mais là ils ont quand même gagné à Milan et c'est tout
bon, ça va être un groupe où la moins mauvaise va se qualifier quoi avec l'OL.
Ouais je pense mais c'est mais sinon pour revenir un peu à l'équipe de Suisse en elle-même, Il y a un groupe qui commence à être intéressant. Bon, quand je dis que Stéphane Kristik est le taulier, c'est vrai que ça peut prêter à rire quand même. Je l'accorde. Mais franchement, il y a quelque chose à faire. Ça va nous faire que du bien et puis c'est enchaîner 4 compétitions consécutives. Je crois que c'était jamais arrivé. 4 compétitions internationales consécutives. Je crois que c'était jamais arrivé à la Suisse. Et donc si ça peut se faire dès demain ou bien mercredi s'il faut, moi je serais content, surtout après donc les deux premiers matchs de poule hein, qu'on fait, mais bon, j'ai presque envie de me méfier contre du Luxembourg demain, donc voilà.
T'as envie d'une fessée?
Non, j'ai pas envie, je te rassure, j'ai pas envie d'une fessée, tout ce que j'ai envie c'est qu'on gagne, mais quand je me rappelle le match d'aller, Je suis méfiant quand même. Même si ça veut rien dire, cette équipe de Suisse, hein, cette équipe de Luxembourg avec Clef Tracer qui joue à Grasse-Père qui est pas titulaire à Grasse-Père, et puis Mario Mutch qui est l'autre joueur professionnel de cette équipe qui était à Aro l'année passée et qui est maintenant du côté de Metz.
Donc la star, il était à Aro et maintenant il est à Metz.
Non,
ça, la star, c'est top, Tracer. Top qu'ils ont.
Ah bah Luxembourg, c'est génial. Hein. Non, mais de toute façon. Quand on perd contre le Luxembourg, il n'y a rien à dire. Hein. On était les grosses merdes, la risée de l'Europe, tout ce que tu veux, la risée du monde, tout ce que tu veux. Hein. Mais c'est.
Bon. D'ailleurs, on l'a beaucoup dit.
Hein?
On l'a beaucoup dit d'ailleurs.
Ah bah, c'était justifié. Non, mais moi je te dis, je m'en fous qu'on gagne 1-0 à la Nantes. Non, je sais pas qu'on gagne à la 90e minute.
96e.
Qu'on gagne à la première. Que Frey pousse un ballon dans le but à la première minute pour en bat les couilles. On sera qualifié comme. Ou bien s'il veut refaire le coup de Chypre dans le groupe de l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2006 ou à la 87e, il marque et il nous fait gagner 1-0. Et puis c'est sûrement ce qui nous fait finir finalement deuxième de ce groupe pour en gagner en barrage après. Mais non, moi je m'en fous qu'on gagne 1-0. Il y a 1-0 ou 4-1, ce moment, c'est un pour moi. Mais ce qu'il faudra, c'est marquer vite. Et jouer de l'avant et puis pas se faire prendre comme des cons comme l'année passée. Et voilà.
Eh ben merci Valentin. Donc maintenant, à part si vous voulez parler du groupe 3 avec la Slovaquie, la Slovénie, l'Irlande du Nord, la République tchèque et la Pologne qui peuvent encore tous finir dans les deux premiers, je pense qu'on va laisser la place à Dizzy pour nous parler du groupe 4, celui de l'Allemagne.
Alors effectivement, je l'ai évoqué tout à l'heure en parlant de la Bundesliga. Je l'ai évoqué donc match capital demain entre la Russie et l'Allemagne qui se jouera à Moscou sur un terrain synthétique dont les Allemands disent que ça ne les dérangera pas du tout. Ça reste à voir. Je rappelle le classement. L'Allemagne est premier avec l'Allemagne est première plutôt après 8 matchs donc avec un petit point d'avance sur la Russie. Et la Finlande qui n'a plus d'espoir de se qualifier, donc la Russie et l'Allemagne qui sont en tête, la Russie pour l'instant deuxième, donc qui doit s'imposer pour passer première, et après ça il leur restera plus qu'un match dans lesquels un match pour chaque équipe, dans lesquels l'Allemagne et la Finlande s'affronteront, et la Russie ira en Azerbaïdjan. Donc l'Allemagne espère se qualifier demain en allant gagner à Moscou. Donc match compliqué qui s'annonce avec René Adler dans les buts qui a été déclaré numéro 1 par Joachim Löw puisqu'il avait longtemps hésité entre Henke, Temwiese et René Adler pour la place de numéro 1.
C'est vraiment Adler qui faisait les meilleures performances avec l'Allemagne.
Pardon? J'ai compris ce que tu as dit.
C'est vraiment Adler qui faisait les meilleures performances avec l'Allemagne entre les trois.
Alors entre les trois, c'est pas sûr, mais Robert Henke a fait des matchs très très corrects, voire très bons. Mais le truc, c'est qu'il est blessé, donc tout simplement impossible. Il est blessé pour assez longtemps d'ailleurs, donc c'est tout simplement impossible qu'il joue contre la Russie. Et donc René Adler a été préféré à Temwiese. Il me semble assez logique puisque.
Et Neuer, il est pris ou bien.
Qui ça?
Neuer.
Je crois que c'est le troisième gardien, effectivement.
Ouais, parce qu'à l'Eurosport, il avait été pas mal aussi. Hein.
Ouais, exactement. Ouais. Mais bon, pour l'instant, c'est René Adler donc, qui va se battre dans les buts. Une autre non-titularisation, voire non-sélection. C'est celui qui le déplorait tellement, c'est Thorsten Frings, donc qui a une nouvelle fois pas été pris. C'est Jérôme Boateng qui a été pris à la place. Et donc demain, bah, match tout simplement capital dans ce groupe avec l'Allemagne qui peut se qualifier directement, et avec un Joachim Löw qui va essayer de jouer la défensive. Il l'a annoncé. Donc ce sera un match sans doute assez fermé dans lequel les Russes vont plus attaquer que les Allemands. Et les Allemands joueront en contre pour essayer d'aller donner les 3 points de Moscou.
Merci Maël. Donc...
De rien Pierrot.
Donc bah maintenant le groupe 5, celui de l'Espagne. Donc nos spécialistes espagnols peuvent s'y donner à cœur joie.
Ça me sent, oui. Non, ouais, juste la 9e victoire en 9 matchs quoi, pour ils jouent l'Arménie sans leur meilleur joueur, hein. Alors comment ça se prononce, Mkhitaryan, qui est la star du Metalurg Donetsk. Donc voilà, je crois que j'ai suffisamment parlé de l'Arménie.
Ah, faut pas sous-estimer l'Arménie, hein.
Oui, oui, c'est ça, ouais.
Arménienne, c'est pour ça.
Ouais, mais ils vont se prendre une branlée comme d'hab, hein. ils en avaient déjà pris 4 à l'aller et là ça va être pareil, hein. Ils vont se faire trucider.
De l'Ajax.
Qui ça? Le gars Mouncharian, là, ou je sais pas quoi. Ouais. Bah, apparemment, il joue pas, non. Ouais. Moi, j'ai un peu la compo qu'il y a, et il est pas trop. Bon, c'est une compo, évidemment. C'est pas officiel, mais. Apparemment, non, mais. Bon, le truc, c'est qu'ils ont pris quand même 18 buts en 8 matchs, quoi. C'est. En sachant que dans le groupe, c'est pas tous des foot de guerre. T'as l'Espagne, ok.
Non,
mais ensuite, t'as la Bosnie, la Turquie, la Belgique et l'Estonie. Ah, déjà là. Voilà. D'ailleurs, en regardant les compos, je me posais la question de savoir depuis quand le foot européen était devenu aussi faible. Parce que quand je vois que dans le groupe 1 encore ça va, c'est assez bien. Quand on voit que dans le groupe de la Suisse, entre la Suisse et la Grèce, la Slovaquie qui va les doigts dans le nez, il y a la Slovénie et l'Irlande du Nord. Groupe 4, on n'a pas trop grand chose à dire. Allemagne, Russie, c'est très correct. C'est même bon, même. Groupe 5, ça reste moyen. Groupe 6, c'est un des plus solides. Mais après, Serbie, France, Autriche. Voilà, Serbie, c'est le genre d'équipe qu'à chaque fois, on nous explique que ça va être des tueurs. Et l'Argentine leur met 6-0. Italie, Irlande, Bulgarie. et Pays-Bas, Norvège, Écosse, Macédoine.
Donc voilà. La proposition de Honest était que de faire des prêts préliminaires, des prêts éliminatoires.
Bah là, il y a encore 14 places pour il y a 14 places pour les pays de l'UEFA. Moi, je me pose la question, il y a quand même des groupes en Afrique qui sont plus relevés, donc c'est quand même qu'il y a un souci quelque part. Mais bon, bah après, pour ce groupe-là, bah évidemment, ça va jouer entre la Bosnie et la Turquie, même si je pense que la Bosnie a quand même, est quand même un peu plus, un peu mieux placée. Ils ont 4 points d'avance. Ils vont se déplacer en Estonie alors que la Turquie se déplace en Belgique. La Belgique, c'est le genre d'équipe à qui tu mets 4-0 en jouant à 60% de tes possibilités. Mais bon, la Turquie, c'est... Ils sont pas terribles. Ils avaient l'atout énorme d'avoir un Nihat qui explose, qui a tout détruit pendant 2 saisons à Villarreal. Là, il est devenu assez pathétique. Donc,
ouais, puis la Turquie, ils ont quand même fait, je crois, 2-2 contre l'Estonie le dernier match.
C'est, ouais, je peux même pas te donner les résultats de la Turquie parce que contre l'Espagne, ils avaient fait leur meilleur match, mais ils perdent sur les dernières minutes du plus à 1. Mais bon, voilà quoi, l'Espagne, ça reste largement au-dessus. Et bon, la seule petite attraction, d'abord de voir ce que va donner Alvaro Negredo, vu qu'il a été convoqué pour la première fois. D'ailleurs, je tiens juste à préciser pour ceux qui nous écoutent d'arrêter de nous expliquer le délire Negredo qui sort de la cantera du Real. Negredo, il arrive au Real à 20 ans. Hein? Donc, il est formé, c'est un de Vallecano, le Rayo Vallecano. Donc, d'ailleurs, on l'appelle la Fiera de Vallecas, qui est le quartier où se trouve le club, donc c'est pas pour rien. Et puis sinon, un autre tacle pour le Real. On lit depuis quelques temps qu'ils ont refusé Ignacio Monreal, le latéral gauche de Osasuna, qui sera titulaire demain. C'est toujours pareil, quoi. C'est un peu dommage parce que ce gars-là a 22-23 ans, il a un énorme potentiel et puis on le refuse parce qu'il n'est pas assez, il est pas assez bankable. C'est surtout très con parce que d'une, il coûte pas cher. Et puis surtout, bon, s'il avait joué au Real Madrid, il aurait rendu été. Marcelo, un peu moins, mais quand même. Et Arbeloa, qui est un bon joueur, mais qui a beaucoup plus prouvé à droite qu'à gauche, même si je pense qu'il va quand même bien s'en sortir. Et puis voilà, quoi, c'est dommage, mais de toute façon, si ce n'est pas cette année, c'est l'été prochain. Et je pense qu'Osasuna, de toute façon, va perdre ses deux latéraux, parce qu'à droite, il y a un autre joueur qui est plus très loin de la sélection, c'est Azpilicueta. Mais donc voilà, sinon pour le match en lui-même, l'Espagne va jouer en 4-5-1 demain. Donc parce que. Il y a Bia qui est blessé, donc ils vont jouer juste avec le seul Torres en pointe. Donc je vous donne juste la compo entre guillemets non officielle, mais qui est plus que probable. Donc ça donnerait Pepe Reina dans les buts, Monreal, Puyol, Marchena, Sergio Ramos en défense, Senna, Xavi, Fabregas dans l'axe, Cazorla à gauche, Mata à droite, même si je pense que ce sera plutôt Mata à gauche et Cazorla à droite, et Fernando Torres devant. Donc, à mon avis, ça va être une nouvelle. On va encore en avoir pour 10 jours sur la meilleure sélection du monde. Ils sont les meilleurs parce qu'ils mangent l'Arménie, quoi. Bravo. Et les autres matchs, c'est Belgique-Turquie et Estonie-Bosnie. Donc,
juste par rapport juste à Senna et Cazorla, ça reste bon malgré le début de saison de Villarreal.
Ben, Senna a été blessé. Il s'est blessé, je crois, dès son retour à la compétition. Et il est revenu la semaine dernière. Non, il est revenu cette semaine. Donc on peut pas trop le juger. Cazorla, ça reste un peu moyen, mais bon, il s'est blessé, il était out pendant 3 mois, donc c'est pas anormal. Par contre, bon, évidemment il y a un peu de turnover, hein, on l'a bien vu avec Reina qui va jouer, Monreal évidemment, Fabregas. Donc oui, Fabregas est remplaçant en Espagne. Hein. Mm. Donc voilà, sinon bon, ce sera, bon, comme je l'ai dit, ce sera encore une nouvelle victoire.
Mm-hmm. Bah ouais.
On peut donc passer au superbe groupe 6.
Ouais, bah celui de l'Angleterre qui est déjà qualifié. Donc l'Angleterre avec son match du beurre contre l'Ukraine, pas vraiment pour l'Ukraine d'ailleurs, qui peut encore passer devant la Croatie, mais sinon il n'y a rien à signaler. Je pense qu'on peut passer à l'Afrique très rapidement si vous avez des choses à dire.
Ouais, le nouveau scandale de la FIFA et de la CAF, où, et là pour le coup, vous le prenez pour du racisme si ça vous arrange, ou encore une fois comment le football noir va enculer le Maghreb. Ça fait deux fois de suite que le Maroc se fait enfiler, mais vraiment enfiler comme une dinde de Noël, et que la FIFA à chaque fois demande à la CAF de laisser gérer, de, ben, en gros qu'elle n'est pas compétente, hein, comme la LFP, et à chaque fois la CAF décide de pas donner les points. Alors je vous explique ce qui se passe. Le Togo qui fait match nul contre le Maroc a aligné un joueur qui était suspendu. Donc moi quand je vois que la FIFA est en train de nous expliquer qu'ils veulent enlever des points à la Serbie, parce que la Serbie a utilisé, parce que la Serbie, bon, c'est ce qui s'est passé avec l'affaire Bristaton, avec le public qui est un peu déchaîné. Là, comment on peut ne pas, comment on peut laisser passer ça, tout simplement. C'est totalement injuste. Mais bon, ça se passe toujours comme ça. Alors maintenant, le rapport avec l'Afrique noire, parce que pour l'instant, ça reste assez obscur. Le président de la CAF, qui s'appelle Issa Hayatou, est camerounais. Et je vous laisse deviner dans quel groupe est le Cameroun. Surprise, il est dans le groupe du Maroc. Donc si le Maroc récupère 2 points, ils reviennent à 2 points, il me semble, du Cameroun. Et surprise, surprise, toujours la même chose, le Cameroun se déplace lors de la dernière journée
au Maroc.
Dis donc, tout ça, ça commence à devenir très bizarre. Et puis voilà, donc encore une fois, ils vont se faire avoir comme, donc pour info, lors de les qualifs pour la Coupe du Monde 2006. Et je crois que Ali peut en parler aussi. Il y a eu une affaire dans ce goût-là, avec ce qui s'était passé lors de Maroc-Tunisie, où le Tunisien Clayton, déjà, ça. Le Tunisien Clayton. Non, mais il se fout de notre gueule, je pense. Honnêtement. Non, mais bref. Où Clayton a reçu 2 cartons jaunes. Donc, en gros, c'est une Simunic. Ou Simunic, ou je sais pas trop comment on dit ça. Et qui, comme d'habitude, a fait sa petite pute. En gros, Clayton, pour ceux qui ne savent pas, c'est une Dani Alves du très, 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 très pauvre. Mais très, très, très pauvre. Et puis, il demande à se faire changer. Ça, généralement, quand un président un petit peu intelligent, tu portes réclamation et puis... Et puis tu leur baisses la gueule. Et puis nous, hein, spécialité, comme c'est un autre pays arabe, ils ont dit non, on va pas faire sans pays arabe, et puis on s'est encore fait taper. Donc voilà. En théorie, le Maroc devrait récupérer 2 points, ce qui changerait la donne. Donc je vous donne rapidement maintenant, une fois que j'ai fini d'insulter Issa Hayatou, la CAF, la FIFA et le monde, je vais vous donner rapidement les matchs et les classements provisoires. Donc dans le groupe A, on a Cameroun premier, Gabon deuxième, Togo troisième et Maroc quatrième. Donc si jamais ça venait à changer, ça donnerait donc Cameroun 7 points, Gabon 6 points, Maroc 5 points et Togo 4 points. Donc comme vous pouvez le constater, rien n'est fait. Et donc voilà, Togo, Gabon. Et puis là, le 14, donc je vous donne les deux matchs qui arrivent, hein. Donc on aurait Gabon, Maroc, Cameroun, Togo, et ensuite Togo, Gabon, Maroc, Cameroun. Donc en gros, dans ce groupe là tout est possible, et l'affaire des 2 points, ça, c'est très très important pour le Maroc, mais aussi pour le Cameroun, parce que je pense que le Cameroun va exploser le Togo à domicile. Et puis le Maroc, hein, on est toujours capable de casser les couilles aux gens quand ils s'y attendent le moins. Donc je pense que si jamais le Maroc reprend les 2 points, ils vont et taper le Gabon, et taper le Cameroun et aller en Coupe du Monde. Ce serait merveilleux. Mais bon, Issa Hayatou, on sait ce que c'est, donc ça ne sera pas le cas. Donc rapidement, les autres groupes. Donc, dans le groupe B, ça se joue entre la Tunisie et le Nigeria. Ils ne se rencontrent pas. Ils sont déjà joués. Donc, ils vont jouer donc, le Kenya et la Mozambique à eux deux. Donc, bon, là, évidemment, c'est très serré. Le groupe 3, très cher à Roméo, où ça va se jouer entre l'Algérie et l'Égypte. Donc tout va se jouer très vraisemblablement lors du dernier match, à savoir Égypte-Algérie en Égypte. Dans le groupe D, plus de suspense, hein, le Ghana est déjà qualifié, c'est pas une surprise. Bon, après, pour info, mais bon, on rentrera pas dans les détails, puisque cette année, c'est la première fois que la Coupe d'Afrique et la Coupe c'est pas la première fois, c'est la deuxième édition plutôt, où les qualifs de Coupe d'Afrique et Coupe du Monde ont fusionné. Donc là, ça joue juste pour la place en Coupe d'Afrique. Et dans le dernier groupe, le Côte d'Ivoire, ça va jouer le Côte d'Ivoire à 6 points d'avance, il reste 2 journées. Donc il faudrait des cataclysmes, hein, pour que le Burkina Faso passe à leur place. Donc voilà. Donc en gros, ça va être un deux matchs très très importants, et puis ça se jouera entre ce week-end et mercredi en Afrique.
Bien, merci Habib. Je pense que pour finir ces cours du monde, je peux te laisser carte blanche pour parler de l'Amérique du Sud, hein, et plus particulièrement de l'Argentine, je pense.
Qui a tout pour se faire éliminer, franchement. Son cinquième, donc pour l'instant, cinquième, c'est le barrage contre la CONCACAF. Réception du Pérou et déplacement en Uruguay. Je vois déjà Forlan en train d'attendre l'Argentine avec une joie non dissimulée. Donc ce sera très très compliqué. Après, le petit truc rassurant, c'est de voir dans le groupe 3, enfin dans le groupe 3, pardon, le troisième de la CONCACAF, c'est plus le Mexique qui a longtemps été troisième et ce qui aurait été une catastrophe quand même, tirer le Mexique en barrage. Donc le bateau, ça jouerait vraisemblablement entre le Honduras et le Costa Rica. Sinon, moi, je vous donne rapidement les équipes déjà qualifiées. Brésil et le Paraguay. Et le classement provisoire. Donc le Chili qui devrait se qualifier ce week-end. Puis ils ont 4 points d'avance sur le quatrième et 5 points d'avance sur l'Argentine qui est actuellement dernier, presque qualifié, vu qu'il joue le barrage. Équateur 23 points, Argentine 22, Uruguay, Venezuela 21 points, Colombie 20 points. Donc ça va être très 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 compliqué jusqu'au bout. Hein.
Merci.
Oui, d'accord.
Non, mais vas-y, justement, j'allais te demander si tu avais une dernière.
Ouais, juste donner rapidement les matchs qu'il y a. Donc,
ah, bah oui.
Colombie-Chili, ça va être. C'est le plus beau match de Manos Weekend, Colombie-Chili. Le Chili, c'est une des équipes qui est la plus belle à avoir joué en Amérique du Sud. Donc, si jamais vous avez une insomnie ce week-end, je vous recommande de regarder ce match-là. Équateur-Uruguay, Venezuela-Paraguay, Argentine-Pérou. Bolivie-Brésil et donc la dernière journée qui sera ce mercredi avec l'immense choc entre l'Uruguay et l'Argentine, les cousins ennemis, et sinon les autres matchs, donc Pérou-Bolivie, Paraguay-Colombie, Brésil-Venezuela et Chili-Équateur. Donc on se revoit ce week-end.
Peut-être demain d'ailleurs.
Peut-être, oui.
Bon, merci Habib. Donc, si quelqu'un veut dire un dernier mot avant qu'on clore cette émission.
Vous avez parlé.
Je crois de les doigts pour jouer en Albèche.
Vous avez parlé de Ben Arfa qui a dit qu'il voulait jouer à la Coupe du Monde 2010.
Non. Voilà. C'est ça.
Est-ce qu'on doit vraiment en parler ou rigoler?
Il a déjà joué un match officiel pour la France.
Mais il a marqué le but décisif contre Nîmes ce soir.
Oh.
C'est pas vrai. Non.
Dans les arènes et tout.
À la 86e minute.
Une victoire pour Marseille.
Vous estimez Ben Arfa, il est capable de marquer. Hein.
Ouais.
Bon, bah, c'est sur ces belles paroles qu'on va pouvoir clore cette émission. Donc, je vais essayer de rappeler tous ceux qui étaient là ce soir. Ceux qui sont partis, Roméo déjà.
On évite lui.
Puni par Ben Aleg.
Non, il faut dire la vérité, ils ont droit. Papa a éteint la lifebox. Parce que c'est l'heure de dormir.
Donc, il y avait Dizzy avec nous. Mais qui est parti aussi, et donc il reste avec nous encore Ali. C'est pas grave, Ali. Bon, je pense qu'il nous dit au revoir, hein, qu'il dit au revoir à tout le monde, qui c'est un garçon poli. Donc, Habib.
Il est pas poli, non. C'est vrai parce qu'il se faisait chier, c'est tout.
Et puis, il restait Valentin.
Eh ouais.
Donc maintenant je vais laisser la radio aux soins de Dan qui va nous diffuser la musique qu'il souhaite. Et donc je
Rabbi Jacob, Rabbi Jacob, Rabbi Jacob.
Donc je vous souhaite une bonne soirée sur Génération sans le cœur, c'est que de la bonne musique de Dan, et puis peut-être à demain donc pour un autre tour, mais cette fois des résultats.
Adieu.
Bonne nuit.